Mais U peut-on trouver des chocolats de Pâques qui font cagnoter 34% sur la carte U?
La chasse au prix de Pâques est ouverte.
Alors on dit merci les jeudis plus.
Ah oh, merci.
Rendez-vous le 10 avril et profitez de 34% en euro carte U sur les chocolats de Pâques. 34% dans vos magasins U et sur courseU.com.
Offre réservée aux clients carte U, valable pour un retrait le 10 avril, limité à 10 produits identiques. Hors chocolat fabriqué sur place et vendu au rayon pâtisserie traditionnelle, vrac et hors produits éligibles à un avantage promotionnel. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, bougez plus.
Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente.
Sud Radio, on parle auto, parlons pneu, parlons bien.
Septembre 1983, Dunlop dépose le bilan. C'est
Dunlop
un tremblement de terre,
ah
oui,
oui,
en France. Tremblement de terre industriel, économique. Eh ben, il y a un homme qui est à nos côtés, qui peut se targuer quand même d'avoir sauvé cette grande maison. On va parler de la saga Dunlop avec Claude Cham. Bonjour Claude.
Bonjour, bonjour Claude.
Président bonjour. De la FIEV, Fédération des industries et des équipements pour véhicules. Ex-PDG
de Dunlop. Alors Dunlop, tiens, pour revenir.
Et président de Equipauto SAS.
Ouais. Ouais.
S'il vous plaît, le grand salon des professionnels de l'automobile.
Et encore, on ne vous donne pas tout son CV parce que l'émission est trop courte. Mais Claude, ouais, pour revenir historiquement, bon, Dunlop, première marque de pneumatiques du monde, ouais, puisque fondée à la fin du 19e siècle, mmh, ouais, par un médecin écossais, ça n'avait rien à voir. Tiens, pourquoi, historiquement, pourquoi il s'est mis à faire des pneus, ce monsieur?
Alors, j'étais pas là, bien
oui,
évidemment, pour savoir.
Mais par contre, François Alain était là, il nous racontera tout à l'heure les débuts de Dunlop.
Mais l'histoire raconte que, comme il était vétérinaire, il avait l'habitude d'utiliser des gants en latex naturels, etc. Et là, je dirais, la symbolique est qu'il aurait eu un fils qui était sur un tricycle, qui avait du mal à monter sur les pavés de sa cour avec des roues.
Des
en bandage
pleine, oui, oui, oui.
Et il a tout à coup inventé le pneumatique en 1888. Et moi, j'ai le fac-similé du pneumatique.
Ah, le
oui,
premier?
Oui, oui.
Vous l'avez chez vous?
Oui, je l'ai chez moi. J'ai le fac-similé. Si je devais déposer le brevet aujourd'hui, je déposerais exactement la même
mais
chose.
Mais c'est quoi, c'est une sorte de carcasse?
Alors, il a inventé l'enveloppe caoutchoutée. Il a inventé la chambre à air. Et il a même inventé la valve pour remplir la chambre à air. Et donc, il a pris une jante plainte en bois, mmh, il l'a recouverte avec son invention, et il a fait la comparaison entre un bandage plein et oui, le bandage gonflé, et bien évidemment, l'un allait beaucoup plus loin que l'autre, et puis adhérait beaucoup mieux, et wow, il a déposé son brevet.
Oui,
et bon, ce qu'il faut...
Remettez bien le micro à côté,
ouais,
de vous.
Ensuite, ouais, bon, évidemment, comme l'idée était géniale, elle s'est répandue, mmh, un peu partout, y compris en France, mmh, où un fabricant de vélo a dit, tiens, c'est génial, je vais adopter ça. Alors, j'ai lu l'historique, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que cette marque en France a déposé le nom de Dunlop.
Oui, Clément Bayard a eu...
Remettez bien les choses dans leur... Ouais.
C'est génial. Clément Bayard traverse la Manche, va voir Dunlop, lui demande d'avoir une licence de marque.
Que Dunlop était le vrai nom du vétérinaire, hein, c'était John Boy,
oui, oui,
Dunlop.
John Boy Dunlop, mm, c'est son nom. Et donc, il revient en France et il dépose une licence de marque pour des vélos, pour des chambres à air, pour des pneus vélos. Et puis, comme les Anglais, à la fin du 19e siècle, sont beaucoup plus industrialisés que nous, etc., Dunlop Limited en Angleterre se développe plus rapidement. Et donc, un jour, Clément Bayard est absorbé par Dunlop Limited. Mais la marque avait été enregistrée dans sa société et elle est restée là. Comme ça. Les Anglais n'ont jamais remonté la propriété de la marque dans le holding de, wow, tête. Et moi, quand j'arrive en 84 avec les Japonais, bien évidemment...
Oui, alors, faut... entre-temps, bon, Dunlop, évidemment, se développe en France.
Voilà.
Et puis, il se passe... Il y a des vrais soucis.
Ah,
la,
oui,
marque dépose le...
Le bilan. Septembre 83.
Ouais, dépose le bilan. Et vous arrivez, grâce aux Japonais. Les Japonais rachètent, en fait, Dunlop France, c'est ça?
Ça ne s'est pas passé,
non,
tout à fait,
ouais,
tout à fait comme ça.
Non.
Ils étaient déjà...
Non, non. En fait, c'est un homme qui a proposé. Vas-y, ouais, allez-y, racontez,
alors,
Claude.
Ce qui s'est passé, c'est que les Japonais... Shinichi Saito, qui était le président de Sumitomo Rubber Industries, société qui a été créée par Sumitomo Electric au Japon, pour reprendre Dunlop Japon en 1963, qui était en dépôt de bilan. OK? De 1963... En 1983, les Japonais redressent Dunlop Japon. Ce monsieur qui arrive à la tête de Sumitomo s'aperçoit que le marché du pneumatique se mondialise et cherche à racheter des actifs Dunlop dans le monde entier. Il était intéressé par les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. La France qu'il avait visitée ne l'intéressait pas parce que c'était tellement mauvaise situation qu'il n'en voulait pas. septembre 83, la filiale française dépose son bilan. À ce moment-là, le tribunal de commerce, le président en place à l'époque, vont au Japon et ils disent aux Japonais, écoutez, vous n'êtes pas intéressés. Et c'est là qu'ils se remettent à être intéressés par la reprise de Dunlop France. Et l'histoire veut que Dunlop France a été reprise le 1er juillet 1984, avant l'Allemagne, avant l'Angleterre et avant les États-Unis.
Et qui vous propose à vous, Claude Cham, de reprendre Dunlop France?
Moi, j'étais à sortie de l'industrie automobile à ce moment-là.
Vous étiez Chrysler?
J'étais sur les aéroports parisiens et j'avais des consultants qui s'appelaient la Fiduciaire de France et qui avaient le dossier entre les mains, qui sont venus me voir parce que je voulais revenir dans l'automobile. Mmh. Et ils me disent, écoutez, on est sur ce dossier, c'est pas tout à fait l'automobile, mais ça peut peut-être vous intéresser. C'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe de Sumitomo. Et je suis arrivé en même temps que le 1er juillet 1984.
Et vous sauvez l'usine française qui existe toujours d'ailleurs. Hein.
Oui. Vous me faites beaucoup d'honneur en disant vous sauvez.
Mais c'est vos équipes, évidemment. C'est un travail d'équipe, mais voilà. Vous êtes le représentant.
Oui, effectivement. Donc on reprend en location-gérance le 1er juillet 84. Du 1er juillet 84 à décembre 84, on transforme ça en une reprise effective. Et de cette date-là, il a fallu redresser. C'était quand même assez difficile. À l'époque, on perdait 1 million par jour.
Waouh ! Ce que j'ai trouvé génial dans l'histoire, c'est que vous emmenez à un moment les syndicalistes au Japon pour leur faire voir qu'on peut travailler dans de bonnes conditions, mais travailler bien et plus, sans forcément être en grève. Et ils reviennent convaincus, en fait. C'est énorme, tiens. Tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, voilà un petit stage au Japon.
Allez, go. Et alors, sur le pneu en soi, chez Dunlop, entre votre arrivée, on voit bien que vous redressez la boîte, même plus que la redresser, il y a eu des R&D, il y a eu des développements de pneumatiques particuliers dans ces moments-là aussi. Hein.
Oui, il a fallu tout redévelopper. On avait arrêté la production de pneumatiques poids lourds à Montluçon. Comme Montluçon était une très grosse usine, il lui fallait lui apporter du volume. Pour lui apporter du volume, j'ai relancé la production de pneumatiques poids lourds et il a fallu redévelopper une carcasse, redévelopper un pneu, car le grand concurrent que nous avions en face était Michelin.
Ils
n'étaient pas très très loin, effectivement. Donc on a redéveloppé les pneumatiques poids lourds, il a fallu redévelopper des pneumatiques tourisme, des pneumatiques moto, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Dunlop est le premier manufacturier pneumatique moto du monde.
Oui, bah moi, quand j'ai été jeune, tout le monde rêvait, dans ma génération, d'avoir des K81 Dunlop sur sa moto. C'était le pneu mythique. Si on n'avait pas ça, on avait raté sa vie. C'était pas compliqué, non.
Et c'est ce dont je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que si on questionne le conducteur automobile et qu'on lui pose une question pour savoir quelle est la marque de ses pneumatiques, 80% des gens ne savent pas, parce qu'ils ne le regardent pas. Par contre, un motard...
Un motard, il sait.
Et moi, je sais aussi sur les 24 heures du Mans. Oui, J'adore l'arche Dunlop, le pont Dunlop. J'aime beaucoup.
Et comme l'histoire est un éternel recommencement, alors après, on va aller un peu plus vite, mais Dunlop a été racheté par Goodyear. Ah. Et là, retour de l'histoire, de nouveau, Dunlop est racheté par Sumitomo.
Ah oui, c'est
vous allez reprendre
ça.
Les rênes alors,
je vais, quand on arrive à la fin des années 90, des années 2000, effectivement, le Japon va pas très très bien. Sumitomo décide non pas de vendre, mais de faire une joint venture dans
Alors,
le monde entier.
On explique ce que c'est pour tous.
C'est une association de deux entreprises qui apportent leurs actifs pour les mettre en commun et le développer ensemble. Donc, Sumitomo fait une joint venture aux États-Unis, au Japon et en Europe avec la société Goodyear. La majorité était pour Sumitomo en Asie. La majorité était pour Goodyear en Amérique et en Europe.
On retourne en 1983, vous allez reprendre la tête de Dunlop.
On a juste oublié quand même de préciser, c'est que Dunlop, c'est pas que les pneus. Après, il y a eu tout le développement avec les lits Dunlop Hilo.
Oui, les lits. Moi, j'avais un matelas Dunlop Hilo.
Et on a l'homme quand même qui a permis à tout ça se réaliser. À l'époque, pour conclure, Claude, vous aviez combien de collaborateurs, tout compris, sur tous les sites de France? Vous vous souvenez quand vous avez...
Sur tous les sites de France, on devait être à un moment donné, aux alentours de 10 000 personnes France.
C'est fou, hein.
Et puis, mon territoire commençait à Amsterdam et se terminait au Cap. Parce que j'avais toute la partie Europe du Sud sous ma responsabilité.
Ah oui, en voiture électrique, ça ne va pas être facile à faire.
On vient de le faire quand même. Et Equipe Auto était sponsor de la croisière.
En plus, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir
merci
été avec
Claude
nous.
Mais
je vous en prie.
C'est toujours
plaisir.
Un peu émouvant de regarder dans le rétroviseur. Hein.
Toujours. Mais ce que je souhaite, c'est que maintenant, 40 ans après, Sumitomo puisse repartir. Mais
Claude Cham qui était avec nous, voilà, une histoire de France, une partie de l'histoire de l'industrie française. Merci d'avoir été là, Claude Cham, président de la FIEV et également ancien PDG jusqu'en 2000 de Dunlop. À suivre, eh bien, on va vous accueillir au téléphone. Une question d'un auditeur et bien sûr une réponse. C'est Pascal qui arrivera et on aura de nouveau David de Rognecourt avec nous pour lui répondre.
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien.
Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route.